Et c'est avec grand bonheur qu'on le retrouve, parce qu'au mois de juin, on pensait que c'était la dernière fois qu'il faisait une chronique avec nous, mais hein, l'appel de la radio a été plus grand pour Olivier Beauregard. Olivier, bonjour!
Salut, comment ça va?
Très bien, toi-même. Comment a été ton été?
Oui.
Content d'être de retour?
Absolument. Écoute, après, ça fait près de 10 ans là, que je fais de la radio. Ben, ça fait 10 ans exactement que je fais de la radio, puis honnêtement, je me voyais pas, je me voyais mal arrêter d'en faire après les avec mes patrons actuels, ben on est venu à une entente, puis moi je suis vraiment content de pouvoir continuer à faire ça. Honnêtement, là, ça m'aurait vraiment trop manqué.
Et là, ben on fera un retour aujourd'hui, aussi un retour sur l'été sportif, hein, les trucs qui ont marqué l'actualité dans les derniers mois, en commençant par le Canadien de Montréal. Et tout, j'ai le goût de l'appeler la saga Kotkaniemi, parce que pendant une couple de jours, c'est pas mal ce qui retenait l'attention, là.
Hey, écoute, tu dis une couple de jours, puis le début du camp d'entraînement des recrues vient de commencer, puis on en parle encore.
Oui.
Parce que c'est pas compliqué. Jesperi Kotkaniemi, ben écoute, on avait mis beaucoup d'espoir en lui. Moi, je me rappelle en 2018, quand il est arrivé à Montréal, qu'on a décidé de le garder à 18 ans. C'est un choix de troisième, ben de première ronde, mais le troisième au total. Écoute, théoriquement, t'as pas le droit de te tromper quand tu piges dans les 5 premiers, même dans les 10 premiers, je te dirais. Mm-hmm. Dans le cas de Kotkaniemi, ben On n'a pas été capable de trouver une façon de le faire produire, une façon de trouver une constance dans son cas. Je dis pas que c'est nécessairement juste la faute du Canadien, parce que ce qu'on entend, c'est que Kotkaniemi avait pas nécessairement l'attitude exemplaire dans le vestiaire non plus. Mm-hmm. Mais la façon que ça s'est terminé, là, mon Dieu, c'est digne encore une fois d'un scénario hollywoodien. T'sais. L'an passé, rappelle-toi, on se parlait que Sébastien Aho avait reçu une offre hostile du Canadien de Montréal juste avant le début de la saison. Les Hurricanes de la Caroline qui avaient décidé d'accoter l'offre en disant « il n'est pas question que Sébastien s'en aille ». Puis là, ben, les Hurricanes ont comme décidé de faire un tour à Marc Bergevin en donnant une offre à Jesperi Kotkaniemi hostile de 6 millions de dollars pour une saison, un peu plus de 6 millions de dollars. Écoute, pas de bon sens. Tout le monde, de tous les amateurs peuvent du moins le dire qu'il ne vaut pas ça pour l'instant, mm-hmm. Moins. Puis là, finalement, ben, le Canadien dit « Nous, on peut pas accoter cette offre-là, ça va nous mettre dans le trou financièrement parlant. » Alors, on le laisse partir. Et là, les Hurricanes, ben, se sont fait prendre à leur jeu parce qu'ils viennent d'aller chercher un jeune homme qui ne sera pas le premier centre, ne sera pas le deuxième centre. Puis quand je regarde la ligne des Hurricanes de la Caroline, ça sera peut-être même pas le troisième centre de cette équipe-là, à moins qu'on décide de le faire jouer à l'aile.
Mais il va coûter 6 millions quand même.
Ben, c'est ça. Alors, en tout cas, peu importe, ça a été tout un dossier, puis ce qui revient là, là-dedans, là, outre le fait qu'il est, bon, c'est un prix démesuré dans son cas, puis que le Canadien, selon moi, a bien fait de le laisser partir, ce qui revient, c'est qu'encore une fois, le Canadien, qui va sélectionner très tôt, n'est pas capable, Sébastien, de développer son joueur. Mm-hmm. Tu sais, Alex Galchenyuk, là, c'est un troisième joueur total aussi. Là. Puis Alex Galchenyuk, aujourd'hui, il cherche du boulot au moment où on se parle. Tu sais, je comprends pas, hé, où la lacune. Je sais que moi, j'étais dans l'organisation du Canadien de Montréal en 2018, là, puis quand il espérait que le Canadien était arrivé en haut, là, tout le monde voulait le voir jouer là. On a comblé un besoin avec un joueur de centre qu'on cherchait depuis longtemps, mais tu sais, on le fait, pas de la bonne façon. Tu sais, des fois, pour que tu prennes le temps de développer ces gars-là dans des rangs plus bas, il aurait même pu, à la limite, retourner en Finlande, continuer à jouer son hockey là-bas, avant de revenir ici à Montréal. Et là, aujourd'hui, ben, on se demande, ce gars-là, quand est-ce qu'il va éclore, quand est-ce qu'il va, il va exploser, si tu veux. Mm-hmm. Finalement, il y a 250 matchs derrière la cravate, puis aujourd'hui, on se demandait encore chez le Canadien si on était capable de lui offrir un rôle de centre de premier plan. Donc, c'est ça, là, ça va encore la lumière sur le système de développement du Canadien, malheureusement, dans certains cas. C'est surtout les décisions qu'on décide d'en faire, parce que, tu sais, Jaël Bouchard, là, lorsqu'il était à Laval, lui, là, il n'y a pas personne qui critiquait sa façon de développer des joueurs. Par contre, là, ce qu'on dit, c'est, dans le cas de Kotkaniemi, on a peut-être décidé de l'amener trop rapidement.
Okay.
Que là, on a pris des mauvais plis, puis des mauvais plis qui étaient difficiles à enlever.
Bon, ben, on verra si sa prochaine saison, s'il livrera la marchandise à 6 millions de dollars, je pense que plusieurs personnes vont jeter un coup d'œil.
Ouais, ça risque de critiquer un peu. Ouais.
Tu avais évoqué Jaël Bouchard, qui, ben, lui, a décidé de... J'allais dire changer d'emploi. On va dire changer de lieu pour effectuer à peu près la même job.
Oui, exact. Quitter Laval, quitter son patelin pour aller à San Diego pour le club école des Ducks d'Anaheim. Écoute, cette nouvelle-là, moi, m'a surprise énormément parce que cet été, quand on a annoncé qu'il n'y avait pas de négociation en cours, je me disais, écoute, tout est prolongé à cause de la COVID. Ça se peut, le Canadien est en finale de la Coupe Stanley. Marc Bergevin a certainement pas eu le temps de s'asseoir avec Jaël Bouchard pour discuter de contrat. Mais semble-t-il que c'était probablement volontaire parce que Joël Bouchard a quitté et est parti pour Anaheim pour occuper les mêmes fonctions, c'est-à-dire entraîneur-chef du club école. Mm-hmm. Et là, moi, écoute, tu sais, là, c'est à mon humble avis, Sébastien, mais je trouve qu'il y a anguille sous roche. Qu'est-ce qui a cloché dans cette histoire-là pour que Joël Bouchard décide de quitter, en Californie? C'est bien beau la Californie, le soleil, etc. Mais quand tu as la chance d'être dans ton monde, être au Canada puis travailler pour l'Organisation du Canadien de Montréal, mm-hmm. quand tu es un Québécois, habituellement, ça vaut son pesant d'or. Est-ce que Joël Bouchard sentait que la nomination de Dominique Ducharme venait de lui couper l'herbe sous le pied? C'est-à-dire, bon, ben c'est pas lui qu'on voit comme éventuellement le prochain entraîneur-chef de l'organisation. Écoute, probablement. Puis le fait aussi que cet entraîneur-là s'est rendu en finale de la Coupe cette année, oh, même s'il était par intérim à l'époque, ça venait de dire à Joël Bouchard, écoute, je pense pas que tu vas monter en haut rapidement. Mm-hmm. Est-ce que la situation est plus facile pour lui d'évoluer puis de monter rapidement à Anaheim? Peut-être, je sais pas ce qu'on lui a promis, mais je trouve ça quand même spécial que Joël Bouchard a quitté. Puis même dans les discours, là, dans les communiqués de presse, plutôt dans les conférences de presse qu'on a fait après ce changement-là, finalement, je trouvais que Marc Bergevin et Joël Bouchard n'avaient pas nécessairement le même discours. Tu sais, tous les deux disaient qu'il y avait une volonté de leur côté et on se lançait la balle de cette façon-là. Puis finalement, on sait pas qui voulait plus être là, finalement, ou qui voulait plus avoir cette association-là. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un Joël Bouchard parti, un Joël Bouchard qu'on a dit, ce gars-là est tellement talentueux, c'est le meilleur pour développer des jeunes. Marc Bergevin l'a laissé filer. Moi, je pense qu'on aurait dû s'asseoir avec lui et lui offrir quelque chose de concret, quelque chose qu'il n'aurait pas pu refuser finalement. Mais malheureusement, là, il est trop tard. Puis bonne chance à Jean-François Hull. Il y a de grands, très, très grands filets à chaud.
Il y a quelques années, Olivier, Eugénie Bouchard était à son meilleur. Milos Raonic jouait vraiment de magnifique façon, était haut dans le classement. Et tu m'as dit, là, Sébastien, là, on vit quelque chose. On vit l'âge d'or du tennis canadien. C'est magnifique ce qui se passe. Comme prenez des notes. Comme l'impression que la semaine passée, on était une petite coche au-dessus de ça.
Ah, écoute, le US Open cette année, moi, là, il va être marqué dans mes bons moments sportifs, non seulement de l'année 2021, mais dans les bons moments sportifs des dernières années. Puis je t'explique pourquoi. Puis vous l'avez probablement tous entendu, tous vu. Mais Leila Annie Fernandez a réussi à se rendre en finale du US Open à seulement 19 ans. Mm-hmm. Écoute, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'elle a fait comme parcours. Elle a affronté des têtes d'affiche. Elle a battu la numéro 1 mondiale pour s'y rendre. Moi, là, tu sais, j'adore le tennis. J'aime vraiment regarder ce sport-là. Mais j'adore encore plus ça quand nos Canadiens sont impliqués et connaissent de bonnes performances. C'est encourageant. On savait qu'elle était bonne. On savait qu'elle était talentueuse, Leilani Fernandez. Mais à ce point-là, moi, j'ai découvert une athlète. J'ai découvert une jeune femme tellement mature, tellement forte mm-hmm. mentalement pour avoir toute cette pression-là, Sébastien. Là. Ça a été une révélation pour moi. J'ai adoré ça et j'ai hâte de la suivre. Moi, je pense qu'on vient de peut-être... Tu sais, Bianca Andreescu, lorsqu'elle a remporté la Coupe Rogers contre Serena Williams, on s'était tous dit... OK, on a une prochaine joueuse. Malheureusement, là, les blessures semblent avoir rattrapé Andreescu. Mm-hmm. J'espère que dans le cas de Leilani Fernandez, on va protéger ce joyau-là, puis on va pouvoir la voir continuer à progresser, puis éventuellement là, devenir l'une des meilleures, peut-être même la meilleure au monde. Ce qu'elle a démontré, c'est qu'elle est capable de se rendre à ce niveau-là. En tout cas, ça, c'est sûr et certain.
Et en entrevue, c'est magnifique à voir. On lui a posé la question, je ne sais plus après quel match, là, à partir de quel moment tu pensais pouvoir gagner? Puis elle a répondu, ben avant le match. T'sais, elle a de bonnes réponses, wow. elle a une maturité incroyable. À son match au 11 septembre, une pensée pour les New Yorkais, vraiment, là, c'est de toute beauté à voir.
Elle fait tout de la bonne façon. Puis, tu viens de le dire, simplement de souligner le 11 septembre quand tu es à New York, là, mm-hmm. ben, je vais dire une affaire, de juste penser à faire des choses comme ça. Elle fait tout de la bonne façon, Sébastien. Moi, je l'adore, comme je te dis. Je crois qu'on a une athlète d'exception entre les mains. Maintenant, c'est de la protéger. C'est de continuer à l'aider à évoluer, mm-hmm. lui donner les meilleurs outils possibles. Puis, sait-on jamais, cette jeune femme-là pourrait devenir l'une des chouchous du Canada très rapidement.
On va suivre ça assurément. Puis, en terminant, parlons soccer et du CF Montréal. Ben, en fait, plutôt des partisans du CF Montréal sont bruyants, prennent beaucoup de place. Rappelle-nous ce qui s'est passé.
Tellement qu'on a été obligé de les sacrer dehors. C'est pas compliqué. Les ultras, les fameux ultras qui étaient du côté de l'Impact de Montréal, là, années, on savait que c'était disons, les partisans les plus brillants, les partisans les plus intimidants, puis c'est eux souvent qui faisaient regretter les partisans des autres équipes de se promener dans le stade Saputo. Mais tu sais, ça a toujours été fait de, quand même de façon respectueuse, c'était simplement très brillant. Récemment, ben, on a décidé du côté du CF Montréal de bannir des partisans qui étaient aux ultras parce que on a manqué de respect, on s'en est pris à d'autres partisans de la même équipe dans le stade parce que certains avaient décidé de continuer à porter le chandail de l'Impact de Montréal. Écoute, ça a tellement créé de friction, ça a tellement créé de guerre, ce changement de logo-là, pour une raison qu'on ne sait même pas pourquoi on a fait ça, que présentement, à l'interne, c'est en train d'exploser chez l'Impact. Là, il y a des gens qui demandent des remboursements, il y a des ultras qui disent « ça n'a pas de bon sens, c'est pas tout le monde qui s'est battu, c'est pas tout le monde qui a manqué de respect. Comment se fait-on, comment se fait-il plutôt qu'on n'est pas considéré? » Et là, Sébastien, là, Kevin Gilmore, qui est à la gestion là-bas, là, lui, il y a une gestion énorme à faire. Là. Il doit trouver une façon de calmer la tempête, mais de garder ces partisans-là. Tu peux pas sacrer tes ultras qui ont fait des voyages, écoute, en Amérique du Sud pour suivre ton équipe. Tu peux pas les sacrer dehors de cette façon-là. Il y a une façon probablement d'éduquer tes partisans, mais de les sacrer à la porte comme ça. Écoute, c'est vulgaire, je trouve ça dommage, je trouve ça triste. Et surtout, je pense que tous ceux et celles qui ont perdu leur chance de rester là, d'avoir leur billet de saison, écoute, c'est pas tous ceux qui étaient fautifs dans ce cas-là. Alors, en tout cas, on agit vite du côté de l'organisation montréalaise, là. Puis autant quand on change de nom, puis tu changes de logo après autant d'années, autant que quand tu sacres des partisans dehors, c'est des mauvaises décisions. Moi, j'espère que du côté de en tout cas, l'équipe marketing, l'équipe des communications, on va un peu se ranger vers nos partisans, puis leur offrir quelque chose qu'ils ont besoin, parce qu'eux autres sont là, même quand ça n'allait pas bien. C'est pas juste depuis Didier Drogba, là. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Ouais. Faudrait essayer de les garder dans le stade.
On va suivre ça. Ça aussi, c'était une revue de l'été. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de dossiers à suivre pour les prochains mois.
Ah, écoute, on aurait pu faire une heure ensemble aujourd'hui.
Olivier Beauregard, c'est un bonheur de te retrouver. Puis on se donne rendez-vous comme ça chaque jeudi.
Absolument, c'est un bonheur partagé. Merci beaucoup.